7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Hey, BlackBerry, il n'y a pas si longtemps, c'était la grosse affaire. C'était le joueur, disons, envié dans le domaine des téléphones intelligents. Là, c'est devenu, quoi, un figurant.
J'ai eu un coup de vieux hier, Paul. Je parlais à un monsieur qui me prenait en photo, j'ai dit, vous avez un BlackBerry? Il dit, oui, je travaille au gouvernement, on est les seuls à en avoir encore. Et parce que le gouvernement disait que le BlackBerry, pour la sécurité, c'est ce qu'il y avait de meilleur. On a gardé cette logique-là pendant longtemps.
Pas juste le gouvernement, je connais des gens du crime organisé qui trouvaient que c'était une bonne affaire aussi.
Oui?
Oui. Pas que je connais les gens, là, mais c'est, mettons que, ouais.
BlackBerry, tu sais, marché noir, deuxième, pas déclaré à l'impôt. Donc, 2016, on donne des licences chez BlackBerry, mais on n'en fabrique plus de téléphone. On a un sous-traitant ou plusieurs sous-traitants qui ont des licences, mais on n'en fabrique plus. Et on se souvient au début du tournant des années 2000, comment c'était l'affaire. Ouais. On se demandait comment Research in Motion pouvait être tassé du marché des téléphones, tellement c'était fort. Et l'iPhone a tout changé avec son écran tactile et le marché. Les ventes de BlackBerry en 2011 ont dépassé le 50 millions d'unités. Et après ça, on s'est mis à descendre à une vitesse fulgurante pour tomber presque à zéro. Là, on est à 3% du marché canadien. Mais sur un marché mondial où le téléphone intelligent est passé de 2007 à 2017, de 122 millions d'unités de téléphone intelligent à 1,5, 1,6 milliards de téléphones intelligents. Donc, pendant que BlackBerry disparaissait, le téléphone intelligent a explosé. Et le modèle de BlackBerry a tellement changé qu'on est rendu dans les logiciels maintenant. Le chiffre d'affaires est passé de 2 milliards à 932 millions de 2016 à 2018, mais on est passé de 208 millions de pertes comptables à 405 millions de bénéfices. Et quand on regarde dans l'état sectoriel, les données sectorielles, on voit très bien que les appareils sont passés de revenus en 2016 de 884 millions à seulement 64 millions présentement.
Mais là, ils font quoi? C'est quoi? Quelles sont leurs autres activités?
On est dans le logiciel. On est dans le logiciel. Okay. Donc, on est vraiment, on a changé de modèle d'affaires et on est revenu dans un avenir qui est positif. Mais je me souviens de l'action qui était à près de quoi? 150 $ en 2008. Et maintenant, on est à 14,84 $.
Parlons de retraite anticipée. Il y a des réflexions à faire avant quand même.
Oui, il y a une émission au banc public là-dessus. Il y a plusieurs jeunes retraités qui sortent en vantant les prouesses de leur jeune retraite à 40 ans ou 41 ou 38. Mais j'ai dit attention, avant de se lancer dans un tel projet, regardons les risques. Premièrement, le risque d'inflation. Tu sais, une fois que tu mets tout ton argent en bourse ou dans des investissements et que tu vis de ton rendement parce que tu as épargné toute ta vie, c'est-à-dire 20 ans de travail à peu près, l'inflation est ton pire ennemi parce qu'il faut que tu battes le rendement du marché ou que tu aies un rendement de marché plus l'inflation pour maintenir ta capacité d'achat. Et ça existe beaucoup chez les gens qui ont un régime de retraite à prestations déterminées non indexées. Tu sais, ils prennent une retraite à 55-60 ans parce qu'ils ont eu des bonnes conditions dans leur régime, bien il est non indexé. Donc chaque année, ils s'appauvrissent. C'est un facteur à considérer. Une bonne façon de contrer ça, c'est d'avoir un actif immobilier qui est payé avant la retraite. Deuxième chose, le risque de séparation. Parce que la richesse des jeunes retraités, c'est souvent d'être en couple et d'utiliser le fractionnement de revenus à son maximum. C'est-à-dire, on va profiter des économies d'échelle d'être à deux, par exemple, se retirer chacun un salaire de 15 000 de nos placements et ne pas payer d'impôts pratiquement. Mais en étant en couple, on va avoir 30 000 d'argent pour dépenser, donc on va profiter d'économies d'échelle. Mais si après deux mois de retraite anticipée, tu te rends compte que ton conjoint ou ta conjointe était pas si le fun que ça en durée tous les jours, ben ça peut avoir un impact. Troisième point, le CELI et le REER, il faut les optimiser. T'sais. Le REER donne une grosse déduction dans la vie active et le gouvernement nous traite comme des salariés qui dépensent tout leur salaire. Et ça, les épargnants comprennent ça. Ce qu'ils font, c'est que pendant leur vie active, retirent leur dépose ou cotisent à leur REER au maximum, prennent la grosse déduction jusqu'à 18% de leur salaire. Et à la retraite, comme on est une retraite anticipée, qu'on reprend sa retraite à 45 ans, on amortit les retraites REER sur 30 ans, tu comprends? Et là, ça fait en sorte que, ben pas 30 ans, jusqu'à 70, 71 ans, puis après ça, ça devient un fer, là, ou un retrait, mais on amortit, donc on paie pas vraiment d'impôts sur les retraites. Donc, on se retrouve toute notre vie à avoir un remboursement d'impôts et ne pas payer d'impôts sur les retraites. Parce qu'on a un petit salaire chaque année, c'est ça la règle, hein? Laissez vos millions dans vos actifs et retirez un petit peu. Le CELI, une autre affaire qui est intéressante, c'est que lui te permet de moduler. Tu sais, t'as besoin de t'acheter une voiture à la retraite, tu sors un 15 000 comptant, t'as aucun impôt parce que tu l'as pris dans ton CELI. Et on continue avec le quatrième facteur important, la maladie grave ou l'invalidité. C'est beau à 40 ans, moi j'atteins 40 ans bientôt l'année prochaine, là, je me sens vieux, mes os commencent à me faire mal, mais j'ai pas encore la peur de l'invalidité ou de la maladie, mais ça peut frapper n'importe qui. Donc, quand t'as une pré-retraite de planifier avec un petit salaire, ça va bien. Mais quand ça commence à aller mal, que t'as des problèmes de santé, que t'as besoin de soins à domicile, ben, ton salaire que t'avais prévu annuellement avec une personne en santé, t'es pas suffisant. Et le dernier point, la vie active. Tu sais, mettons que ça va mal. Mettons qu'il y a un crash boursier. Mettons que tes placements vont pas bien. Mettons que t'as besoin d'argent. Est-ce que t'es encore employable? Tu sais, moi, mettons que je lâche tout ce que je fais puis je prends une retraite pendant 10 ans puis je vais devenir comptable après parce que j'ai besoin d'argent. Pas sûr. Tu sais, mettons que mes données vont être un peu pas à jour. Donc, les gens peuvent se demander quel est mon plan de retour au travail en cas de problème. Et la règle de base, c'est d'être capable de vivre avec 4% de son salaire, de 4% de tes placements. Donc, un rendement de 4% sans toucher à ton capital. Donc, les gens qui sont pré-retraités se disent, si je suis capable de vivre avec un rendement de 4% sans toucher à mon capital, c'est le rendement que je dois avoir à la retraite et je peux quand même prendre ma retraite. Mais il y a des risques, Paul, mais c'est bon, les gens qui sont retraités sans cheveux gris.
Je me souviens d'un auditeur qui m'avait écrit qu'il avait pris sa retraite très jeune, de 43 ou 44 ans. Mais il dit qu'il est revenu assez vite sur le marché du travail, par exemple.
Oui, qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, il manque de revenus.
La régie des rentes était moins rentable.
Ben, en tout cas, disons qu'il avait peut-être pas fait ses calculs ou il y a peut-être eu des impondérables, je sais pas trop, là, mais il m'a dit, après quelques années, et pas par choix, là, il est obligé de revenir.
Bon. Puis rapidement, en sortant, le gouverneur fédéral, évidemment, a annulé notre excitation rapidement d'avoir un seul rapport d'impôt. Hein. Ça a été assez rapide.
Ben, il serait d'accord, en autant que c'est celui du Québec qui est transféré.
Ouais, c'est ça. Là, on va chicaner pour savoir qui a le centre administratif. Donc, la morale, Paul, c'est quoi? Justin Trudeau ne veut pas augmenter le fardeau fiscal des Canadiens, mais ne va pas le réduire non plus.
Salut, 7h24.